Chers sœurs et frères, mes chaleureuses salutations à vous toutes et à vous tous. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir vous parler en cette occasion et de vous exprimer mon amour fraternel pour vous tous, pour vous toutes, et de traiter le sujet dont on va parler aujourd'hui pour savoir quel est le genre de sujet qu'on doit traiter à cette époque de l'année. Je vous prie de vous reporter, chers sœurs et frères, au chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu. Chapitre 25, nous allons voir quelle est l'admonition ou, disons, les commandements du Christ pour l'Église et ses ministres pour qu'ils pourvoient du pain spirituel à ses brebis. Alors, si vous voulez, s'il vous plaît, vous reportez au chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu et nous allons voir au verset 45. Chapitre 24, verset 45, les paroles du Christ pour nous. Et c'est la raison par laquelle j'ai choisi le sujet dont on va parler aujourd'hui. Nous allons voir d'abord pourquoi. Chapitre 24, verset 45 de l'Évangile de Matthieu. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Voilà. C'est très important de comprendre quel est le temps où on se trouve maintenant, à cette époque de l'année. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Donc c'est le travail, c'est la labeur de l'Église de donner la nourriture en son temps, en saison, en la saison convenable. Dans quelle saison nous trouvons-nous, chers sœurs et frères? Nous venons de rentrer de la fête des tabernacles. Nous avons été énormément bénis, spirituellement et physiquement, avec cette fête merveilleuse que le monde ne connaît pas, mais que nous pratiquons en suivant les traces du Christ qui montait toutes les années, en la saison, à la fête des tabernacles et à toutes les autres fêtes de l'Éternel. Il nous a donc donné l'exemple que nous devons suivre. Et nous avons été énormément bénis. On s'est réjouis devant la présence de notre Dieu dans les lieux qu'il a choisis, et aussi les uns et les autres en goûtant le fruit de l'Esprit abondamment, la croissance spirituelle des frères et des sœurs qui ont grandi au fur et à mesure pendant l'année et qui viennent se présenter devant la présence des dieux. C'est pourquoi la fête est tellement merveilleuse et chaque fête doit être meilleure que la précédente, parce qu'il faut qu'il y ait de la croissance spirituelle. Vous savez, cette offrande qu'on présente trois fois par an devant l'Éternel, cette offrande physique dont nous allons étudier maintenant la signification, n'est qu'un symbole de la croissance spirituelle que l'Éternel espère de nous au fur et à mesure que le temps passe. Cette croissance de préparation spirituelle de l'épouse pour qu'elle soit prête pour le mariage de l'agneau. Donc, mes amis, pourquoi donc ce sujet à cette époque-ci? La fête des tabernacles est une fête de récolte. Et Dieu, même avant la création de l'univers, il avait un plan qu'il avait conçu avant les commencements des siècles. Nous allons voir ça, mes amis, c'est très profond. Si on peut se remonter à l'éternité qui nous précède, avant la création de l'univers, Dieu avait un plan qu'il a tracé. Déjà, il connaissait, il savait la création qu'il allait faire et qu'il y aurait trois récoltes sur la planète Terre. Et c'est merveilleux de pouvoir comprendre avec une perspective qui se remonte, comme je vous dis, à l'éternité, qui pénètre l'éternité qui nous précède, et nous pouvons comprendre l'Esprit des dieux et les profondeurs de l'Esprit de la sagesse des dieux qui nous permet de comprendre parce qu'on a une portion de son Esprit en nous autres. Donc, je vous invite, chers sœurs et frères, reportez-vous à l'Épître et adressé à Tite par l'apôtre Paul. Épître à Tite, nous allons voir que Dieu, avant même la création de l'univers, que nous pouvons comprendre facilement que c'était au moment où le temps a commencé, le moment où on pouvait commencer à compter les jours, les heures, les jours, les semaines, les mois et les années. Nous allons voir, même avant ça, avant la création de l'univers, Dieu a conçu un plan qui nous est enseigné par l'intermédiaire des fêtes et qui constitue trois récoltes par an, qui sont les trois étapes du développement, du plan de Dieu. C'est absolument merveilleux d'avoir cette compréhension. Donc, on va lire au chapitre 1 de l'Épître à Tite, et nous lisons ici au chapitre 1 et verset 1. « Paul, serviteur des dieux et l'apôtre et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus, des dieux, et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. » Qu'est-ce que nous étions en train de fêter à la fête des tabernacles, la fête de la première résurrection, ceux sur lesquels la deuxième est morte n'a aucun pouvoir. Et c'était pendant une récolte qu'on a célébré l'accomplissement de cette promesse. Voyons donc ce qu'il dit ici. L'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles. D'autres versions un peu plus exactes disent « avant le commencement des siècles », avant le commencement du temps. Donc Dieu, il savait qu'il allait créer la terre et qu'au fur et à mesure que les récoltes physiques allaient représenter la récolte spirituelle et les triomphes du plan de transmettre la vie éternelle aux êtres humains. C'est magnifique de pouvoir pénétrer les profondeurs de la vérité de Dieu. Nous allons voir aussi dans le deuxième épître à Timothée, chapitre 1 et verset 9, c'est le même concept que nous voyons ici. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1 et verset 9, nous lisons. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. Quand il a conçu ce plan, nous on n'avait pas fait d'œuvres. Mais il l'a conçu, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est le même concept. Avant les temps éternels veut dire dans d'autres versions, si vous voulez vérifier, je l'ai ici, juste dans cette version que j'utilise, et il dit avant, au verset 9, chapitre 1 de Timothée, deuxième épître au Timothée, chapitre 1, et verset 9, avant les temps des siècles. Les temps étaient commencés à être mesurés quand la terre, quand les soleils, quand le système planétaire, quand les galaxies ont été créées par le pouvoir des dieux, quand il a parlé et les choses ont commencé à exister. Donc on est rentré dans la dimension du temps. Avant, comme toujours Dieu, il habitait l'éternité, mais il a conçu un plan merveilleux pour mener des enfants à l'éternité. Donc, mes amis, ce sont des concepts absolument merveilleux. Et avant le début des temps, il avait conçu qu'il y aurait la terre et qu'il y aurait trois récoltes qui allaient représenter, du point de vue physique, les trois récoltes du plan des dieux. Et nous allons les voir. Ici, par exemple, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, vous allez voir comment l'apôtre Paul nous montre ce plan merveilleux des dieux pour transmettre l'éternité aux enfants, à ceux qu'il allait créer, à son image et à sa ressemblance. Au chapitre 15, verset 22, premier épître aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 22, vous allez voir, mes chères sœurs et frères, il dit, « Et comme tout meurt en Adam, souvenez-vous que la semence, quand elle tombe à terre, elle doit mourir d'abord, avant de revivre et de porter du fruit pour la vie éternelle. C'est merveilleux. Tous les mystères du royaume des dieux, presque tous, sont expliqués dans la parole des dieux en termes agricoles. Et c'est pourquoi je vous parle aujourd'hui en termes agricoles. Nous allons voir ici. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. La semence qui tombe à la terre, celle qu'on plante, qui est semée, même à cette époque-ci, c'est pourquoi je vous parle, c'est la saison de la semence dans laquelle on est. Je vous expliquer un peu plus en détail. Vous le savez, vous n'avez qu'à sortir à cette époque de l'année, après la fête des tabernacles. On ensemence les champs. C'est l'époque de planter la semence pour qu'il y ait une récolte, pour qu'il y ait trois récoltes, mes chers sœurs et frères. Et ces trois récoltes, vous le connaissez bien. La toute première, ceux qui connaissent l'agriculture dans l'hémisphère nord, c'est celle des orges à l'époque du printemps, à l'époque de la Pâque, à l'époque des pains sans levain. Et 7 semaines après, le premier épi de la deuxième récolte, c'est-à-dire le blé ou le froment, sont déjà mûrs pour être les premiers fruits, les prémices. Donc, mes amis, c'est merveilleux. Et après, c'est la troisième récolte. On récolte les olives et bien sûr, tout d'abord, les raisins pour le vin. Et puis les olives, et puis les grenades, et puis les figues et tous les fruits de l'été. Il y a donc 3 récoltes dans dans l'agriculture du point de vue du Moyen-Orient, de Jérusalem, mais même de l'Europe, qui est facile pour nous à comprendre la sagesse merveilleuse de Dieu, que nous allons expliquer un peu plus en détail. Donc, 15-22, 1 Épître aux Corinthiens, 15-22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. » Ça veut dire « en son ordre ». Il y a 3 récoltes l'une après l'autre. Voyons Christ comme prémisse. Prémisse, il est en train de parler en termes agricoles, mes chers amis. Puis ceux qui appartiennent au Christ, c'est la deuxième récolte. Donc le Christ est le premier. C'est à l'époque de la Pâque. C'est à l'époque où il est mort, où il est resté 3 jours et 3 nuits au sépulcre, dans la tombe, et puis il est ressuscité au 3e jour, au moment où on présentait la première gerbe des orges. Mes chers amis, Dieu l'avait déjà conçu auparavant. Donc on continue. Puis ceux qui appartiennent au Christ, ça vient 7 semaines après. Je vais vous démontrer dans la Bible ce qui parfois on a grandi dans les villes. La plupart d'entre vous, peut-être, ce sont des gens qui n'ont connu que la civilisation moderne, qui n'est pas attaché à la terre, mais nous, on va y retourner. Quand le Christ va retourner, ça sera une société agricole. Puis ceux qui appartiennent au Christ, c'est la deuxième récolte, lors de son avènement, c'est le jour des trompettes, c'est la nouvelle naissance de ceux qui ont été engendrés. Vous savez, le jour de la Pentecôte représente l'engendrement par l'Esprit. Mais quand on est engendré, on est encore de la chair. Il y a encore une loi dans nos membres qui veut nous mener captifs à la loi du péché. Et c'est par la force de l'Esprit qu'on reçoit, quand on s'est repenti, qu'on a le pouvoir de vaincre jour après jour. Et les vainqueurs naîtront à nouveau le jour où la 7e trompette va sonner. Et c'est la nouvelle naissance. Il y a parfois de la confusion chez les frères avec ces concepts, mais c'est très simple. Quand l'Esprit, Saint-Esprit a été donné, on était encore de la chair, des os, de la chair et du sang, chez les apôtres, le jour de la Pentecôte. Mais quand on naîtra de nouveau, ça sera le jour des trompettes, quand il n'y aura pas de levain dans notre corps. C'est pourquoi les prémices du jour de la fête de la Pentecôte ont du levain. Mais quand le Christ reviendra, ceux qui auront vaincu ce levain, ils seront ressuscités, immortels, sans levain, sans chair, sans la loi du péché dans leurs membres. Ils seront parfaitement purs, comme le Christ a été quand il est ressuscité et il a été présenté le lendemain, comme vous le savez bien, ce premier jour de la semaine, à l'heure où le suprême sacrificateur offrait la gerbe devant Dieu dans les temples. Il a dit à Marie Magdalène, « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté chez mon Père. » J'espère que vous comprenez tout ça, parce que tout le plan de Dieu est expliqué en termes agricoles, comme je viens de vous le dire. On va y revenir un petit peu. mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement, les vainqueurs, ceux qui ont reçu la sémence, qui représentait pas le jour de la Pentecôte, et qui ont grandi, et qui ont vaincu le jour de la septième trompette, ils seront nés. Une nation, un seul jour, comme il est écrit dans l'apôtre Esaïe. Et puis, ensuite viendra la fin. C'est la troisième récolte, c'est les fruits de l'été. C'est tellement simple, c'est tellement merveilleux. Comment Dieu, il a tracé son plan. Quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu, le Père. C'est-à-dire, une fois que le plan aura été fini, que le Christ sera l'instrument qui a mené ses plans au grand succès, bien sûr, par le pouvoir du Père en lui. Il va remettre tout au Père quand la troisième récolte, après la fin du jugement du grand trône blanc. Donc, il remettra les royaumes au Père pour qu'ils soient tous, tout en tous, quand ils deviendront tous des esprits, des êtres spirituels. Mes amis, c'est absolument merveilleux. Donc, pourquoi je vous fais cette introduction? Nous allons voir dans le livre du Lévitique, s'il vous plaît, livre du Lévitique, nous allons voir les trois récoltes et pourquoi il est tellement important de comprendre ces concepts puisqu'on est éloigné de la terre. Maintenant, la plupart d'entre nous, on n'a pas la connaissance, on n'a pas appris avec les mains concrètement en la pratique de l'agriculture. Mais Dieu veut que nous apprenions l'agriculture spirituelle comme nous allons l'expliquer. Et ensuite, en ce sermon avec l'aide de Dieu. Vous voyez au chapitre Lévitique, chapitre 23, rapportez-vous, s'il vous plaît, au livre du Lévitique, chapitre 23 et verset 9. Et vous voyez un sous-titre ici qui a été ajouté par les éditeurs qui dit « L'Éternel, la fête des prémices ». Nous allons voir qu'il y a deux fêtes de prémices. Les prémices sont le premier fruit d'une récolte. Il ne peut avoir une seule prémice. Enfin, il faut qu'il y ait deux récoltes pour qu'il y ait deux fêtes des prémices. Nous allons le voir tout de suite. D'abord, c'est les prémices de la première récolte. Chapitre 23, verset 9. Rapportez-vous, s'il vous plaît, chapitre Lévitique 23, verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, souvenez-vous que les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain à l'époque de la Pâque, après avoir traversé le fleuve, ils ont gardé la Pâque. Et après, pendant la semaine des pains sans levain, c'est quand Jéricho a été détruit, mes chers amis. Donc, il parle ici en cette saison. Il a eu référence donc à la saison de la Pâque, le printemps. Quand vous serez entrés au verset, comme je vous ai dit, chapitre 23, Lévitique 23, verset 9, deuxième partie du verset 10, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera des côtés et d'autres la gerbe devant l'Éternel afin qu'il soit agréé. Le sacrificateur l'agitera du côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le Christ, je ne dois pas vous expliquer ça, je crois que c'est clair dans votre esprit. Le Christ est ressuscité à la fin du sabbat hebdomadaire, n'est-ce pas? Pas du sabbat de la fête de pain, le premier jour des pains sans levain. Il est ressuscité à la fin du sabbat. C'est le premier jour de la semaine quand il était déjà ressuscité la veille, quand les femmes sont venues au sépulcre. J'espère que vous comprenez ça. C'est à l'époque où au moment où il est sorti du sépulcre, quand c'était la fin du sabbat où la première gerbe des orges a été coupée en donnant exactement l'accomplissement à ce qu'il avait dit. Je ne suis pas venu pour détruire la loi ou les prophètes, mais pour accomplir. Il l'a accompli littéralement. Au moment où il sortait du tombeau, le suprême sacrificateur, il fallait qu'il coupe la première gerbe des orges pour l'offrir le lendemain. Et le Christ, il est sorti à la fin, 3 jours et 3 nuits. Je ne veux pas m'arrêter à l'expliquer. J'espère que vous le connaissez bien. C'est une connaissance merveilleuse de l'Église des dieux, le pilier de la vérité, que j'espère que vous avez tous bien clair en votre esprit. Donc on continue ici au chapitre 23. Quand vous serez dans le pays, comme je viens de vous le lire au chapitre 23 du Lévitique, et au verset 10, deuxième partie, Vous serez entrés dans le pays que je vous donne et vous y ferez la moisson. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Donc c'est au moment où le sabbat était fini la veille que le sacrificateur, parce qu'on pouvait déjà travailler, a coupé la toute première gerbe des orges qui représentait le Christ, le premier né parmi les morts. Ces grains de gerbe, ces grains d'orge étaient morts. Le grain d'orge était mort, comme le Christ avait été mort, comme il avait dit. Il faut que la semence meure. Et le Christ, le premier qui est sorti de la terre, comme les orges, c'est la première récolte qui sort de la terre, dans l'hémisphère nord. Mes amis, à l'époque du printemps, il a accompli et c'était conçu par lui et par son Père. Quand ils étaient le Verbe et Dieu, avant, quand ils habitaient l'éternité, avant la création des planètes et le commencement des siècles, comme je viens de vous l'expliquer. Mes amis, c'est merveilleux d'avoir une perspective absolument unique du plan des dieux qu'aucun philosophe, aucun théologien n'a jamais compris, mes chers amis, et qui était révélé à ceux qui ont un cœur d'enfant. Parce que Dieu l'a caché des savants de ce monde. Donc le jour, c'était très intéressant, donc, qu'ici au verset 23, et chapitre 23, verset 11, on parle du moment où on présente cette gerbe devant l'Éternel. C'est quand le Christ a dit à Marie-Madeleine, « Marie-Madeleine, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté chez mon Père. » Il attendait l'heure où le sacrificateur, le lendemain du sabbat, allait lever cette gerbe et l'agiter devant la présence des dieux. Et lui, il s'est présenté devant son Père au ciel en lui donnant l'accomplissement merveilleux, littéral, exact à cette loi qui était déjà écrite ici et en accomplissant les paroles qu'il avait dites. Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour accomplir. Il l'a accompli exactement. C'est merveilleux. Afin qu'elle soit agréée, il a été accepté par le Père. Je crois que c'était une rencontre absolument merveilleuse et mouvante quand le Christ est venu se présenter après la mort, après avoir souffert la crucifixion, après avoir souffert jusqu'à l'extrême, mes chers amis, d'être enterré pendant 3 jours et 3 nuits, être ressuscité par le pouvoir des dieux, son Père, de se présenter chez lui et dire « Mon Père, la mission est accomplie, c'est le triomphe de ton plan en pleine marche. » Et nous, on est la deuxième partie de ces pleins. On espère qu'on sera des vainqueurs, mes chers amis. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui de ce sujet. Vous allez vous voir pourquoi. Pour être vainqueur, il faut cette présence des dieux en nous, cette discipline absolue, cette dédication totale. Avoir un contact personnel, continuel avec Dieu. Autrement, on ne pourra pas vaincre. Nous, on n'a pas le pouvoir de nous-mêmes, mes chers amis. Donc, le Christ a été accepté. Mais vous regardez, par exemple, la Pentecôte, au verset 15, et on parle d'autres prémices. Ça doit être une deuxième récolte. Donc, pour ceux qui connaissent l'agriculture, ils savent que la deuxième récolte après les orges, c'est le froment ou c'est le blé, qui sont plutôt des synonymes. Au verset, chapitre 23, verset 15, « Depuis le lendemain du sabbat, Lévitique 23, verset 15, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée du côté d'autre, c'est-à-dire les orges devant Dieu, le Christ représenté comme ce qui est sorti tout d'abord de la terre. » C'est merveilleux, ça va être bien clair pour nous. « Vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. » Ça veut dire qu'il fallait que ce soit une autre récolte pour que l'offrande soit nouvelle. Autrement, ce serait une vieille offrande parce que la toute première a été faite 7 semaines avant. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités des côtés et d'autres. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Le jour de la Pentecôte, mes chers amis, quand l'Esprit des dieux est venu, ils étaient des êtres physiques. Nous, quand on reçoit le Saint-Esprit, on est des êtres physiques avec une loi qui veut nous mener captifs à la loi vers le péché. Donc on a encore du levain. C'est pourquoi on est représenté comme ça pour la Pentecôte, mes chers amis. Chaque fois c'est plus clair, c'est plus merveilleux, toutes les connaissances que Dieu nous donne avec un symbolisme absolument merveilleux de sa création. Donc il y a une offrande nouvelle. Et puis après, bien sûr, à la fin, il y a la troisième récolte. Vous allez la voir ici, dans le même chapitre. Je vais vous la lire tout de suite, mes chers sœurs et frères. Chapitre 23 et verset 39 du même chapitre. Lévitique 23 et verset 39. Et voyons, nous allons lire ici, au verset 38. Le 15e jour du 7e mois, ce qu'on vient de célébrer, quand la lune était pleine, c'est merveilleux comme il a fait la lune pour marquer les temps, pour indiquer, pour nous enseigner, et on suit le rythme qu'il a établi merveilleusement. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, quels produits? C'est les fruits de l'été, mes amis. Nous allons voir, je vais vous montrer brièvement, les trois récoltes, je voulais démontrer pour que nous soyons dans les contextes de l'agriculture pour comprendre pourquoi on vous parle de cet aspect-là. Il y a tellement de choses à couvrir là que je n'ai pas le temps, mais je vais vous démontrer que la toute première récolte dans le Moyen-Orient, c'était les orges. Nous allons les voir. Vous savez, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte à l'époque de la Pâque. C'est dans le premier jour des pains sans levain, le 15 du mois de Nissan ou de Abib, où le peuple a commencé à quitter l'Égypte. Vous le savez bien, mes chers sœurs et frères. Mais les plaies d'Égypte étaient tombées juste avant pour que le peuple puisse partir. Et il y en a eu 10, jusqu'à ce que le premier-né sont morts. Donc, nous allons voir au chapitre 9, il y avait la plaie de... Nous allons voir ici, chapitre 9 de l'Exode. Reportez-vous, s'il vous plaît, au livre de l'Exode, au chapitre 9 et verset 13. Ce que je vais vous montrer, c'est un petit panorama qui vous démontre l'ordre dont l'apôtre Paul a parlé. Chacun en son rang. Et ça veut dire, dans d'autres versions, chacun à son tour. C'est-à-dire, chaque récolte vient en parfaite succession, comme elle a été ordonnée depuis même avant les commencements des temps, quand Dieu a conçu son plan spirituel, il l'a tracé dans les récoltes physiques, pour que nous comprenions. Chapitre 9, verset « La grêle et le feu ». Au chapitre 9, verset de l'Exode, chapitre 9, reportez-vous, s'il vous plaît, au verset 31, vous allez voir la preuve. C'était l'Égypte, c'est la même région dont les récoltes viennent dans le même rang. Et nous allons voir ici l'ordre de l'une et après l'autre. Au verset 31, l'Exode, chapitre 9, verset 31, reportez-vous là, s'il vous plaît. Nous allons voir comment la Bible s'interprète elle-même. Les lins et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu a donné l'ordre au Lévitique, chapitre 23, que quand vous entrez dans la terre que je vous donne, et vous faites la moisson, vous présenterez une gerbe de premiers fruits, des prémices devant l'Éternel. C'était pour qu'on puisse présenter une gerbe devant Dieu, il fallait qu'elle soit déjà prête, et le voilà. Voilà la preuve. Chapitre 9, Exode 9, 31. Le lin et l'orge avaient été frappés par la grêle, parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. Le froment, ou le blé, qui mûrit 7 semaines après, le voilà merveilleusement décrit par la parole de Dieu. Et les pôtres n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. C'est pourquoi il y a une promesse, il y a des premiers fruits qu'on présente à l'époque de la Pâque, et 7 semaines après, on présente une nouvelle offrande, celle qui est tardive. C'est le blé, c'est le froment. Vous le voyez là, devant vos yeux, mes chers sœurs et frères. Et bien sûr, la troisième, c'est le fruit de l'été, comme nous allons le voir un peu plus loin. Reportez-vous, s'il vous plaît, au livre de Ruth. On dit Ruth ou Ruth, je ne sais pas. Vous m'excusez, mes chers amis. Je veux dire Ruth. En ce moment-là, je vais me permettre une petite liberté là. au livre de Ruth, cette merveilleuse femme, la seule dont la Bible dit qu'elle est vertueuse et que c'est une femme vertueuse, vous allez voir comment elle arrive à... Nous allons voir au chapitre 1 et verset 22 du livre de Ruth. Ainsi revinrent du pays de Moab, chapitre 1, verset 22. Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Au commencement de la moisson des orges. Ils les mettent tout d'abord, les orges, donc il y a un ordre. Et puis, reportez-vous au chapitre 2 du même livre, et nous allons voir le dernier verset, verset 23. Elle resta donc avec les servantes, je suis en train de lire Ruth, chapitre 2, verset 23. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Vous voyez ? Encore l'ordre, chacun en son rang. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 22. C'est magistral comment Dieu a conçu son plan, mes chers soeurs et frères. Maintenant, pour une preuve, troisième preuve, et puis on a fait une quatrième, et je crois que ça doit suffire. Rapportez-vous, s'il vous plaît, au chapitre. Nous allons voir de nouveau qu'il y en a trois, comme c'était ordonné par Dieu. Dans l'Exode, vous allez voir au chapitre 23, verset 14 du livre de l'Exode. Reportez-vous à l'Exode, chapitre 23, et verset 14. Et puis nous lisons là, mes chers sœurs et frères, trois fois par année, chacun en son rang, trois récoltes que Dieu a conçues, même avant les commencements des siècles, pour nous montrer les récoltes physiques, les plans spirituels où il allait récolter des enfants de la terre. Est né après de l'esprit. C'est merveilleux, mes chers soeurs et frères. C'est un trésor de connaissances qu'on ne doit jamais négliger. Donc, on répète, chapitre 23, verset 14 de l'Exode, encore les trois récoltes. Chapitre 23, verset 14. Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain. Première. Pendant 7 jours, au temps fixé, dans le mois des épis, exactement. Quels épis ? Les épis de l'orge. Nous l'avons déjà démontré. Par la grêle en Égypte, l'orge était la toute première d'être en épis. Donc, à cette époque-là, c'était la seule récolte qu'on pouvait, dont les prémices pouvaient être présentées devant la présence de Dieu. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Et puis, au verset 16, tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail. On a déjà vu, on présente une nouvelle offrande, c'est la moisson du blé. Et nous allons le démontrer tout de suite. Ah, et puis, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilliras des champs le fruit de ton travail. Ce sont les fruits de l'été, comme je vous ai dit. C'est représenté surtout par les raisins, la récolte de vignes avec lesquelles on fait le vin et après les olives avec lesquelles on fait l'huile d'olive. Trois fois par année, tous les hommes se présenteront devant l'Éternel. Et puis, nous allons voir donc que la deuxième, ici, dans le livre de l'Exode, chapitre 34. C'est merveilleux. Je m'arrête un peu là dans ces concepts, mes amis, pour revoir un peu la perspective éternelle et merveilleuse du plan auquel on prend part, duquel on en est parti, mes chers sœurs et frères. Chapitre 34 et verset 22, Exode. Reportez-vous de nouveau au livre de l'Exode, chapitre 34 et verset 22. Nous allons voir. « Tu célébreras la fête des semaines. » Nous avons vu, il fallait compter 7 semaines complètes. Tu célébreras la fête des semaines des prémices de la moisson du froment. Voilà, c'est bien clair. J'espère que je vais ajouter une autre preuve pour que ça soit clair en notre esprit que Dieu a tracé son plan en termes agricoles et que nous devons appliquer ces principes à notre vie spirituelle, comme je veux l'expliquer à continuation. La récolte, et puis la fête de la récolte à la fin de l'année. Bien sûr, c'est l'huile et surtout le vin, bien sûr, comme c'est présenté une fois après l'autre, chacun en son ordre. Nous allons voir la dernière preuve, mes amis, de l'ordre des récoltes au deuxième livre de Samuel. Reportez-vous, s'il vous plaît, au chapitre 21, verset 9 du deuxième livre de Samuel. Samuel, chapitre 21. Deuxième livre de Samuel, chapitre 21 et verset 9. Voici, c'est tellement clair, c'est merveilleux de voir les plans des dieux représentés en l'agriculture, mes chers sœurs et frères. Ah donc, au chapitre, reportez-vous, comme je vous viens de vous le dire, au deuxième livre de Samuel, chapitre 21, et puis on va lire le verset 9. Je suis en train de chercher. Et il le livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne et devant l'Éternel. Tous les sept périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Le voilà. Au commencement, le premier jour de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Donc, pourquoi je passe le temps? Et puis, une dernière, si vous voulez, une mention. Du fruit de l'été, nous allons le voir un peu plus concrètement expliqué, qui est la troisième moisson. Vous savez, il y a le Christ, il y a ceux qui appartiennent au Christ quand il retourne comme l'épouse du Christ, et puis il y a la troisième récolte que le Christ va présenter devant le Père à la fin du jugement du trône blanc. C'est merveilleux. La grande multitude que personne ne peut compter, c'est le triomphe du plan des dieux. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, au chapitre 40 de Jérémie. Jérémie 40, verset 10. Jérémie 40, verset 10. Nous allons voir encore une preuve de la troisième récolte pour que nous comprenions un peu plus clairement le plan merveilleux, magistral que Dieu a conçu avant le commencement des siècles. Chapitre 40, verset 10 de Jérémie. Regardons. Donc, au verset 10. Les versets ne sont pas clairement marqués ici par des espaces dans la page, donc je me perds un petit peu. Mais vous patientez, mes chers sœurs et frères. Chapitre Jérémie 40, verset 10. « Voici, je reste à Mispa pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers nous. Et vous faites la récolte du vin, des fruits d'été et de l'huile. Mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. » Souvenez-vous que le temple a été détruit le 9 du mois de Ab. Ça, plus ou moins, c'est le mois d'août. Souvenez-vous que quand les espions sont retournés explorer la terre, quand ils ont été envoyés explorer la terre au chapitre 14 du livre des Nombres, ils ont rapporté des raisins. Il fallait les porter entre deux personnes, une grappe gigantesque, mes chers amis. Donc, vous avez ici clairement mentionné les fruits de l'été et l'huile, mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. Donc, c'est incroyable, disons, c'est merveilleux de voir tout expliqué clairement par la Bible. Donc, dans quelle époque on est maintenant? Toute cette introduction pour nous mener à la saison dans laquelle Dieu veut que nous prêchions au temps convenable, comme je vous l'ai expliqué en lisant chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Quelle saison ? Nous avons fêté pendant 8 jours, mes chers amis, une fête de récolte, une récolte spirituelle. C'est pendant la récolte, on ne travaille pas. Pendant la récolte, on s'assoit. Et on reçoit la nourriture, on nous sert la table, on fête, on était tous ensemble, on se réjouissait ensemble, on était assis, et puis Dieu, par l'intermédiaire de son Église et ses serviteurs, il vous servait de la nourriture en abondance. Et donc, il ne fallait pas trop travailler. Le grand problème, mes chères sœurs et frères, qui arrive souvent dans l'Église des dieux pour ne pas comprendre que le plan des dieux a des leçons profondes dans des termes agricoles, c'est que beaucoup de membres de l'Église, en rentrant de la fête des tabernacles, ils s'assoient sur leur fauteuil et ils ne font rien du point de vue spirituel. Ils se sont bien réjouis pendant la fête, mais ils négligent le travail qui continue. Nous allons voir qu'est-ce qui arrive après la fête. C'est la première pluie. La première pluie était celle qui devait rendre la terre molle pour que la semence puisse germer et croître et donner du fruit en la saison. Et la toute première saison, c'est la suivante, la fête suivante. Si on ne... Vous savez, après qu'on a mangé le produit de la récolte, on garde de la semence pour ensemencer le champ quand on rentre. Souvenez-vous que nous, on est fait de la poussière de la terre, mes chers amis. Et le Christ, il a expliqué dans la parabole du semeur, comment il y a un parallèle magnifique entre notre corps qui est fait de la terre et le travail qui nous attend. Si nous voulons faire les choses en la saison, si nous voulons croître, si nous voulons présenter un fruit devant Dieu quand la prochaine fête va arriver. Parce que je vous lis ce que vous connaissez bien au chapitre 16, verset 16 du livre du Deutéronome. Lisons-le. Dieu dit, personne ne se présentera devant moi avec les mains vides. Souvenez-vous, il faut présenter une offrande. Et c'est là où le concept agricole dans lequel j'ai essayé de vous mettre pendant tout ce message doit rentrer profondément dans notre être. Nous avons une tâche à accomplir quand nous rentrons de la fête. C'est le moment d'ensemencer de nouveau le champ. La terre, cette terre à nous, ce corps à nous, le temple du Saint-Esprit avec la parole des dieux pour qu'il y ait une croissance de fruits spirituels à présenter devant Dieu à la fête suivante. Mes chers amis, ce qui est négligé souvent, c'est pourquoi avant la fête, surtout la fête de la Pâque, le diable attaque le peuple des dieux et ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas été diligents, je n'ai pas dit tout le monde. Mais moi-même, parfois, je suis coupable de ça, mes amis. Il ne faut jamais négliger la tâche. Il y a un moment pour chaque chose. Il y a le moment de la fête. Il y a le moment de se réjouir. Il y a le moment de ne pas travailler, pour ainsi dire. Donc, il faut toujours présenter des offrandes à Dieu. Ne jamais négliger la présence de Dieu en nous. Mais pour suivre le parallèle, après la fête, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu nous envoie immédiatement, et souvent, le dernier grand jour, il y a de la pluie. Pourquoi Dieu nous rappelle? Maintenant, je vais, et c'est merveilleux, d'abord, je vous lis ici que Dieu attend qu'on présente une offrande. Pour présenter une offrande, Dieu, il n'est pas en train de regarder vraiment la somme d'argent qu'on présente comme offrande. Ce qu'il veut, il regarde le cœur. Si ce cœur a été transformé davantage dans un cœur comme le cœur du Christ, comme le cœur de Dieu. Mes amis, s'il y a de la croissance spirituelle, ça prend du travail. Ça prend de la discipline, il faut se lever tôt. Moi, j'ai vécu dans les montagnes où il fallait prendre la charrue pour labourer les champs parce qu'il n'y avait pas de tracteurs possibles dans les Andes à cause des pentes. Ils sont tellement prononcés qu'on ne peut pas mettre un tracteur là-dedans. Il fallait labourer les champs avec des bœufs, mes amis. Et il faut se lever de bonne heure pour travailler, pour avoir une récolte, pour avoir de premiers fruits à présenter devant Dieu, une croissance spirituelle, une transformation de notre être, où il n'y aura plus d'abondants fruits à présenter devant Dieu. Vous savez, tout cela est physique, ce n'est qu'une figure du plan spirituel des dieux, comme je vous l'avais dit, qu'il avait conçu avant le commencement des temps, qu'il y aurait trois récoltes physiques et que ce n'était que la représentation ou le symbole des trois récoltes spirituelles. Mais pour récolter quelque chose, il faut planter. Il faut planter, il faut travailler, mes chers amis. Donc, nous allons voir. Chapitre 16, verset 16. Trois fois par année. Pourquoi? Il y a trois récoltes. Il y a trois fêtes des récoltes. La toute première, c'était les orges. On l'a déjà démontré à satiété, mes amis. Trois fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira à la fête des pains sans levain. Et nous allons voir que c'est merveilleux, cette récolte des orges a une profonde signification pour nous. Je vous dis tout de suite, avant que je ne l'oublie, les orges, le Christ a voulu être représenté par les orges. C'est un exemple d'humilité. Quand on croit spirituellement, quand il y a la croissance spirituelle, il faut une transformation intérieure. Il faut avoir un cœur humble. Le Christ a dit, apprenez de moi qui suis humble de cœur et doux. Il faut se transformer et ça prend la présence de Dieu en nous pour qu'il nous transforme avec la lumière et le pouvoir de son esprit. Mais il faut le garder vivant. Il faut ce travail, cette tâche de semer de nouveau cette parole de Dieu en nos cœurs pour qu'il y ait un fruit à présenter des croissances spirituelles quand la Pâque s'approche et qu'on ne soit pas paresseux et que les crises et les attaques du diable vont nous attraper à l'improviste. On ne sera pas prêt. Trois fois par année, tous les hommes, 16 d'entre vous, tous les hommes se présenteront, ça veut dire ceux qui représentent une famille aujourd'hui, bien sûr, ça s'applique à tout le monde. Devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, on l'a déjà expliqué, c'était l'époque des orges, pains sans levain. Je vous l'expliquais avec tous les arguments possibles, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. À la fête des semaines, cette semaine après, c'est pourquoi ça s'appelle comme ça, et à la fête des tabernacles, le fruit de l'été, il y a trois récoltes, il y a trois étapes du plan des dieux. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Dieu est en train de parler d'un fruit spirituel. On ne présente plus, si vous voulez, quoique si quelqu'un travaille dans l'agriculture, bien sûr, il pourra présenter du fruit de son travail en le vendant ou bien en espèces devant Dieu. Mais de toute façon, le symbole, la représentation, comme le Christ est représenté par les orges, être le premier parmi les morts, comme c'est dans le chapitre 1, verset 5 de l'Apocalypse. Regardez ça, chaque concept absolument appuyé sur les Écritures, avec toute l'honnêteté, mes amis. Chapitre 1 et verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Livre de l'Apocalypse. Comme je vous dis, je me perds un petit peu là, parce que les versets dans cette version de la Bible sont parmi les... Voilà, le voilà. Chapitre 1, verset 5, Apocalypse. « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. » Le premier-né des morts. L'orge était celle qui sortait la toute première de la terre. Et après le sabbat de la semaine de pain sans levain, il fallait couper la première, cette gerbe. Donc le Christ n'était plus en contact avec la terre. C'est un être spirituel. Chaque aspect représente quelque chose de merveilleux. Il fallait être présenté le lendemain, comme je vous l'ai expliqué. Donc c'est merveilleux. Le premier-né, de la part de Jésus-Christ, Apocalypse 1, verset 1, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, roi des rois. Et les autres rois sont ceux qui seront nés dans ces fêtes suivantes, enfin, qui ont été engendrés pour la Pentecôte et qui seront nés à nouveau le jour des trompettes. C'est merveilleux. Chaque fois qu'on comprend quelque chose, on ne fait que confirmer les principes qu'on nous a expliqués tout au long dans l'Église des dieux. Le pilier de la vérité, mes amis. C'est merveilleux. Donc, on a plus de croissance spirituelle. On croit dans la compréhension, mais il faut la mettre en pratique. Autrement, cette connaissance, il vaudrait mieux ne pas l'avoir, mes chers amis. Donc, chapitre 16, verset 16, du livre du Deutéronome, « Trois fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira à la fête des pains sans levain. » Comme je vous dis, ça représente les orges qui représentent le Christ. À la fête des semaines, ça représente nous, le premier à être engendré. Et à la fête des tabernacles, la troisième récolte, c'est la fin qui va conclure avec le jugement du grand trône blanc, ou le trône blanc quand le Christ, après, va donner le sceptre et les commandements à Dieu le Père, une fois que le plan sera totalement accompli. C'est merveilleux, mes chers amis. Mais ça prend, pour être parti de ce plan-là, du travail quotidien, du travail continuel, comme on va vous le démontrer à continuation. On ne paraîtra point devant l'Éternel, les mains vides. Chacun donnera ce qui pourra selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordée. Dieu espère et il exige qu'à chaque fête, il y ait un fruit des croissances spirituelles. C'est ça ce que ça veut dire. Et il faut semer pour pouvoir récolter. Ça prend du travail, mes chères sœurs et frères. C'est pourquoi maintenant, c'est l'époque de la première pluie, après la fête des tabernacles. La première pluie, puis que Dieu nous montre ici au chapitre. D'ailleurs, j'allais vous expliquer avant que je n'oublie que le Christ est cette première récolte et il nous donne un exemple d'humilité. C'est pourquoi, à l'époque de la Pâque, la continuation, c'est la fête des pains sans levain. Le levain nous gonfle, l'orgueil, la vanité, la tromperie. Quand on ne se comprend pas soi-même, on ne se voit pas tel qu'on est. On doit se voir sous la lumière de la vérité des dieux qui nous pénètre dedans et nous montre notre nature, mes amis, de laquelle on doit avoir horreur pour que Dieu puisse demeurer en nous. Donc, comme ça, il y a la croissance spirituelle quand il y a de l'humilité. Nous, on diminue et le Christ, il augmente en nous. Pour qu'on puisse dire, comme l'apôtre Paul, je ne vis plus, c'est le Christ qui vit en moi. Je suis crucifié avec lui, je mis à mort tout ce qui s'opposait à la connaissance et à la loi des dieux. C'est pourquoi notre lutte est la lutte quotidienne et ça demande un travail constant, continuel. Donc, le Christ est cette première récolte. Vous voyez, si on n'a pas planté, si on n'a pas gardé le contact avec lui tout au long de l'année, à partir de la fête de tabernacle jusqu'à la fête suivante, on n'aura rien à présenter devant Dieu, il n'y aura pas de croissance spirituelle, on aura les mains vides. Même si on a une certaine somme d'argent, Dieu, il espère ça, c'est représenté comme ça, mais il espère aussi une croissance spirituelle. Comment on peut avoir cette croissance spirituelle à partir de maintenant jusqu'à la fête de la Pâque qui viendra la toute prochaine, mes chers amis? Ça prend de la discipline. Vous savez, le Christ s'est levé de bonne heure. Moi, quand j'habitais dans les montagnes, il fallait se lever quand il faisait encore noir. On ne voyait pas beaucoup. Il n'y avait que les étoiles dans la montagne et la lune qui nous illuminaient le matin pour aller commencer à travailler, à préparer les bœufs et la charrue pour commencer à labourer. Et on va voir que les parallèles sont absolument magnifiques, mes chers sœurs et frères, pour qu'ils puissent avoir de la croissance spirituelle. Mais si vous regardez au chapitre 6, verset 6 du livre de l'Apocalypse, vous voyez le symbole de la toute première récolte pour laquelle on doit commencer à planter maintenant, en avouant ce contact quotidien avec le Christ. Chapitre 6, verset 6 du livre de l'Apocalypse, regardez, il dit: « Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants, Apocalypse, reporté à l'Apocalypse, 6, 6, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier. Le blé nous représente à nous. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Trois mesures d'orge pour un denier. Le blé trois fois plus cher que les orges. Le Christ nous donne un exemple d'humilité. Ça représente l'époque de la Pâque des pains sans levain. Si on a eu le contact de la discipline continuelle, notre ego, notre moi aura diminué et la présence du Christ aura grandi en nous et on aura quelque chose à présenter en croissance spirituelle devant Dieu à l'époque de la Pâque et des pains sans levain. Mais ça prend du travail, mes chers amis. Quelle est l'époque où on est maintenant? Nous allons voir ici au chapitre 15 du livre du Deutéronome comment Dieu... Chapitre 11, pardon, Dieu, il mentionne le de pluie. La pluie, la toute première pluie, celle qui prépare la terre pour que la semence puisse pousser, bien sûr, et puis la pluie qui vient plus tard. Et la première pluie commence après la fête des tabernacles. C'est incroyable, c'est merveilleux de voir que pendant une récolte, on garde quand même de la semence pour semer, pour avoir quelque chose à présenter pour la suivante. Ce cycle auquel Dieu permet que nous, on soit soumis, c'est le cycle annuel qui nous permet une croissance spirituelle jusqu'à ce qu'on ait conclu le plan que Dieu avait pour chacun de nous et pour les prémices. Et ça va continuer, bien sûr, pour le reste, pour la suivante récolte, chacun en son rang. Donc, il y a tellement de choses à dire. Mais je vous le montre ici, par exemple, les pluies. Les pluies, ça veut dire, c'est merveilleux comme un Dieu, il avait tout préparé, il avait tout calculé d'une façon merveilleuse. Et maintenant, par le message que je vous donne, Dieu est en train d'amollir vos cœurs, vos âmes, votre esprit, pour qu'avec toutes les forces de notre être, nous fassions une tâche. Il faut labourer cette terre à nous pour que la semence, la présence du Christ et de Dieu en nous soit plus forte et que nous on diminue et que la croissance spirituelle soit évidente. Ici, vous voyez au chapitre 11, verset 13 du livre du Deutéronome, chapitre 11, verset 13, reportez-vous au livre du Deutéronome, chapitre 11, verset 13. « Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel de votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur, nous allons voir ça un peu plus loin, et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison, et tu recueilliras ton blé, ton moût et ton huile. » Magnifique. Si vous consultez des dictionnaires ou des encyclopédies ou des commentaires bibliques, vous savez que la pluie, la première pluie de l'arrière saison, comme il dit, comme il l'a mentionné ici, elle vient juste après la fête des tabernacles, parce qu'il faut aller planter la semence qu'on a reçue. Nous, on a reçu la parole des dieux en abondance pendant la fête, avec une grande abondance, tous les jours. Parfois, deux fois par jour, on était servi la parole des dieux. Comment le Christ, à qui compare-t-il la parole des dieux? Reportez-vous, s'il vous plaît, au livre de Luc, mes chers amis, au chapitre 8. Luc, chapitre 8, et vous allez voir comment, une fois de plus, le royaume des dieux est expliqué en termes agricoles. Voyons au chapitre 8 et du livre de Luc. Au verset 9, ses disciples lui demandèrent, chapitre 8, verset 9, c'est que signifiait cette parole, cette parabole? Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des dieux. Ce que je commençais tout de suite, après l'introduction. Ce que Dieu avait conçu avant le commencement des siècles. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. Écoutez bien, sœurs et frères, la semence, c'est la parole des dieux. On en a profité, on s'est réjoui de la récolte, mais il faut garder de la semence pour aller planter, pour aller ensemencer le champ après la fête, spirituellement parlant, physiquement parlant, spirituellement parlant, le parallèle est absolument magnifique. La semence est la parole des dieux. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Donc, cette semence est plantée dans le cœur. Nous allons voir ça. Donc nous, quand on revient de la fête, il faut qu'on s'occupe à planter cette parole, à ensemencer notre champ de la parole des dieux pour qu'on puisse présenter une offrande, ne pas se présenter avec les mains vides devant Dieu. Et ça prend du travail, et ça prend de la diligence. Et il faut discipliner notre vie, il faut organiser notre vie. Il ne faut pas se coucher à minuit ou je ne sais pas à quelle heure, après ça va être rempli, comme je vous le dis dans un autre sermon, des transgressions de la loi des dieux qui constituent la façon dont les gens s'amusent en voyant les autres transgresser la parole des dieux jusqu'à minuit. C'est pourquoi par l'abondance du mal, l'amour de beaucoup va être refroidi. Parce qu'on n'a pas le zèle et la crainte des dieux qui est de haïr le mal et de garder nos cœurs et notre esprit propres, mes chers amis, avec tellement d'influence du monde. On n'est pas surpris des paroles du Christ, parce que l'iniquité va abonder, l'amour de beaucoup va se refroidir. L'amour, c'est ce désir d'être proche de Dieu. C'est ce désir de se lever de bonne heure, comme le Christ le faisait. Il se levait le matin. Voyons ici, par exemple, ce sont des choses bien concrètes. Ah, il est intéressant de parler de tous ces concepts-là, mais maintenant on va voir comment ça s'applique à nous et que ça commence avec des choses très concrètes comme le fait d'avoir une discipline de se coucher tôt, de se lever tôt pour avoir le temps d'être en la présence des dieux pendant la journée et avoir la présence de la parole des dieux pour qu'elle illumine notre sentier. Autrement, ça va devenir confus, pas si clair, assez clair. On sera influencé par le monde au lieu de nous avoir de l'influence dans le monde, comme la lumière. Il ne faut pas que les ténèbres s'emparent de nous. Il faut que nous, on dissipe les ténèbres parce qu'on est diligent en faisant cette tâche de laquelle on va parler à continuation. Donc, on continue ici au chapitre 1 de l'évangile de Marc, verset 35. Voilà. Voilà l'exemple, il ne faut pas devenir paresseux. Ce chemin est un chemin de travail spirituel. Dieu nous donne tout, il nous donne l'intelligence, il nous donne la compréhension, il nous enseigne son plan, il nous donne les outils nécessaires, mais il faut quand même, s'il faut mettre l'huile dans la lampe, il nous donne l'huile, il nous donne les olives. Eh bien, nous, tout ce qu'on fait, c'est de produire l'huile qui est déjà dans les olives et de le mettre dans la lampe, ce que Dieu veut, ce que nous ayons, au moins la diligence et le travail de chercher dans sa parole cette lumière et de la transporter à notre esprit et de l'assimiler et de nous nourrir de cette lumière jour après jour et de planter la semence dans nos cœurs, la semence de laquelle on en a reçu des quantités abondantes pendant la fête et pas être devenu paresseux, de s'asseoir dans le fauteuil la nuit à regarder la télévision jusqu'à minuit et le lendemain, on n'aura plus le temps de prier et de labourer notre cœur pour planter la semence, pour qu'il y ait la croissance spirituelle. On commence à négliger et Dieu, il nous enseigne ces choses en termes agricoles pour que ça soit clair dans notre esprit. Donc je continue. Ici au chapitre Marc, Évangile de Marc, rapportez-vous, chapitre 1, verset 35, l'exemple du Christ. Il est venu nous donner un exemple pour qu'on suive cette trace d'après la première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 2, verset 21. Marc 1, 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Voilà l'exemple du Christ. Quand j'habitais dans la montagne, il faut se lever le matin quand il était encore très sombre pour aller labourer la terre. Et nous, on est la terre, on est fait de la poussière, mes amis. On doit se lever et labourer, comme on va le voir tout de suite après. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voilà, dans un lieu désert où il pria le matin. Et puis le soir, il faisait la même chose. Mes amis, négligez jamais, il est venu nous donner un exemple pour que nous apprenions à être en contact continuel avec lui, avec son Père, pour que les ténèbres du monde ne soient pas celles qui vont nous vaincre, mais que nous, on va les vaincre avec la lumière des dieux qui est en nous. Par exemple, si vous lisez dans ce même évangile, il y a un exemple aussi du Christ, il y en a plusieurs exemples où il priait le soir aussi. Par exemple, laissez-moi voir ce que je trouve ici dans l'évangile de Marc. Oui, au chapitre 6, quand il a multiplié les pains, chapitre 6 du même évangile, que chapitre un peu plus loin, on est chapitre 1 ici, reportez-vous au chapitre 6, et puis au verset 45 du même évangile, et vous voyez l'exemple du Christ, cette discipline, disciple. Nous, on est des disciples du Christ, le disciple, il se discipline comme son maître. Donc, au chapitre 6 et verset 45, nous voyons ici, chapitre 6, aussitôt après avoir donner à manger à toute cette multitude, multiplication des pains, qui commence le récit au verset 30. Aussitôt, au verset 45, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier, le soir étant venu. La barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Voilà l'exemple du Christ, mes amis. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors après la fête? On a reçu la semence en abondance. Le Christ nous dit dans la parabole du semeur, dans le chapitre 8 de Luc, que cette semence est plantée dans le cœur. Donc nous, on a l'obligation devant Dieu d'aller labourer et d'aller préparer notre corps pour que la parole de Dieu demeure en nous et pour qu'elle produise de la croissance et qu'elle produise du fruit spirituel qu'on doit présenter devant Dieu dans la prochaine fête et la suivante et la suivante. Vous savez, par exemple, je vais vous montrer un exemple merveilleux et qui nous enseigne encore comment le Christ, il se levait le matin pour prier. On peut comparer la prière au fait de labourer la terre. Dieu a dit à Adam, et nous, on est les descendants d'Adam, tu es de la poussière. Nous, on a un corps physique, mais ce corps physique devient aussi le temple de la présence des dieux, où il y a l'esprit, il y a l'âme, et puis il y a le cœur, et puis il y a la force pour travailler. Donc, comment labourer notre corps? Comment être diligent et en profiter cette pluie de l'arrière-saison qui vient et nous préparer, qui prépare notre cœur et notre âme et notre esprit pour qu'on plante, pour qu'on sème la parole de Dieu en nous, pour qu'elle produise cette croissance. Nous pouvons voir ça, par exemple, au chapitre 119 du livre des Psaumes. David aimait Dieu, aimait sa loi tellement qu'il nous donne des exemples merveilleux. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toutes ses forces, de tout son esprit? Le Christ en a donné 4 catégories dans le chapitre 12 de Marc: l'esprit, l'âme, le cœur et la force. Donc nous allons voir quelques exemples de la discipline que Dieu espère de nous quand nous, on doit se lever de bonne heure et aller planter. Parce que si on est paresseux, on n'a rien à présenter devant Dieu. Mais avant ça, j'aimerais que nous voyions d'abord, excusez-moi, sœurs et frères, nous voyons quelques proverbes qui nous parlent d'une qualité que Dieu appelle une possession précieuse chez les gens. C'est la diligence, c'est cette habileté de travailler parce qu'on aime ce qu'on fait. Voyons le livre, portez-vous au livre des Proverbes et nous allons voir des parallèles absolument magnifiques qui maintenant ont une application spirituelle sans aucun doute. Au chapitre 20 du livre des Proverbes, reportez-vous là-bas, chers sœurs et frères. Chapitre 20 du livre des Proverbes, et voyons ce que je suis en train de vous expliquer. Chapitre 20, verset 4. « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. » Le voilà. Après la fête des tabernacles, c'est presque le commencement de l'hiver. C'est la saison de l'automne. Mais il commence à faire froid. Mais c'est l'époque où Dieu a envoyé la première pluie pour que la terre soit préparée. Et par exemple, avant, il y a tellement d'écritures qui viennent à l'esprit là, et on a encore un peu de temps là. Regardez par exemple chapitre 40, 65 des Psaumes, et puis on va retourner là et à cette histoire de la diligence qu'il nous faut, mes amis, pour que cette transformation que Dieu espère de nous et cette croissance spirituelle, pour qu'on soit, on produise le fruit abondant pour la gloire des dieux. Au chapitre 65, regardons par exemple ici du livre des Psaumes. Psaumes, reportez-vous au livre des Psaumes, chapitre 65. Il dit, par exemple, verset 6, « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force, il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots, et le tumulte des peuples. » Ah, voilà, verset 10, voilà ce qui s'applique à nous d'une façon merveilleuse, très bellement exprimée ici par le psalmiste. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Il veut cette croissance chez nous. Nous, on est fait de la terre. Tu la combles de richesses. On a reçu de l'abondance, de nourriture et de semences pendant la fête. Le ruisseau des dieux est plein d'eau. Vous savez que l'esprit au-dedans de nous coule comme des eaux vivantes. Tu prépares le blé. Voilà, nous, on est représentés par le blé, par le froment. Donc, il nous envoie cette pluie, cette rivière qui vient arroser notre être pour qu'on puisse s'aimer, être et avoir vraiment de la production pour la gloire des dieux, quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Voilà, c'est la première pluie, c'est pourquoi parfois, le dernier grand jour de la fête, il y a la première pluie. Dieu nous rappelle, allez travailler, allez vous préparer pour la prochaine récolte, soyez diligents, ne soyez pas paresseux pour la gloire du Père, parce que en ce qu'on produit beaucoup de fruits, c'est la gloire du Père, comme vous le voyez bien. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, la semence, tu couronnes l'année de tes biens. Quand on couronne l'année, quand on a présenté les trois récoltes à la fête des tabernacles, tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. Pourquoi on a travaillé et puis à le blé et à les orges qui font du bruit quand les vents soufflent. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Donc c'est la joie qui vient après avoir travailler. Comme l'autre psaume dit aussi, tu mangeras le fruit de ton travail et tu seras heureux. Si on veut être heureux, il faut travailler. Et quel travail plus merveilleux que de planter la semence des dieux en nos cœurs, en notre esprit. Voyons encore donc quelques proverbes qui nous parlent de la urgence, de la diligence. Chapitre 20, verset 4. Proverbes, reportez-vous au livre des Proverbes, chapitre 20, verset 4. À cause du froid, et ça, c'est littéral, parfois, il est plus difficile quand j'habitais à Strasbourg, dans ma jeunesse, mes chers amis. Et il n'y avait pas de chauffage central, il fallait se chauffer avec du charbon, mais je ne savais pas comment utiliser cette cheminée ou qui avait dans ma chambre. Et le matin, le charbon avait tout brûlé, c'était froid. Strasbourg, c'est froid. L'Alsace, à cause du froid, c'était très dur de sortir du lit le matin pour aller aux classes. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. C'est merveilleux. C'est littéral, mes amis. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Je vous l'ai dit, hein. Là, c'est clair. C'est absolument clair, transparent, merveilleux. Il faut travailler, mes chers amis. Il faut se lever comme le Christ le matin pour labourer notre terre. Voyons quelques autres exemples de la diligence. Chapitre 21 et verset 5. 21 des Proverbes, verset 5. Il dit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. L'homme diligent, les projets ne mènent qu'à l'abondance. Pourquoi ? Il est diligent. Il va semer, il va se discipliner, il va se lever de bonne heure. Il va faire son travail en suivant les traces du Christ. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Puis, oh, il y en a tellement, mes amis, c'est absolument formidable de voir les parallèles magnifiques que la parole de Dieu nous offre. Par exemple, chapitre 12 et verset 24 des Proverbes. Chapitre 12 et verset 24. La main des diligents dominera. Qui sont ceux qui vont régner sur le monde? Le vainqueur. On ne peut pas être vainqueur si on ne plante pas la parole de Dieu en nos cœurs. Et on la met en pratique tout au long de l'année pour les trois récoltes des croissances spirituelles que Dieu espère de nous. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Donc, ceux qui viendront après, ils ne vont pas avoir la même position et la même autorité, mes chers amis. Et puis, on peut avoir... chapitre 13, verset 4, par exemple. L'âme du paresseux a des désirs mais qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Donc, c'est ce bonheur que produit le travail accompli. Quand on a été diligent, on peut se présenter devant Dieu à la prochaine fête avec une croissance spirituelle où le Christ se manifeste beaucoup plus clairement par notre intermédiaire, mes chers amis. Ça produit le bonheur. Chapitre 14, verset 23. 14, verset 23 des Proverbes. 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance. Quel travail nous allons voir? Nous allons voir tout à l'heure. Le travail de se lever de bonheur, de prier. Et la prière, c'est comme labourer la terre. En espagnol, orar, c'est prier. Arar, c'est labourer. Faire des sillons. à notre être. Ils sont très semblables, il n'y a qu'une voyelle de différence. En français, ce serait la prière et puis labourer. Prier et labourer sont des parallèles. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Il y a parfois, toujours, il y a trop de distractions dans notre monde, mes amis. Trop de distractions, des paroles en l'air. On passe trop de temps avec l'Internet, avec le Facebook, etc., etc. C'est pas bon, c'est pas mauvais en soi, mais quand ça prend trop de temps et ça nous empêche de faire le travail spirituel que Dieu espère de nous pour la croissance, donc c'est un problème. On va voir quelques-uns encore pour que vous voyez l'importance, chers sœurs et frères, d'être diligent après la fête, ne pas s'asseoir dans le fauteuil, regarder la télévision et négliger la tâche d'utiliser la première pluie et d'utiliser cette saison qui va après la fête de tabernacle jusqu'au début de janvier. C'est l'époque de l'arrière-pluie ou de la pluie de l'arrière-saison, ou c'est-à-dire la première pluie, comme quelques-uns la connaissent. Et donc, on va voir encore un ou deux proverbes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, donc, nous allons voir au chapitre 6, je crois que c'est le dernier exemple, mais c'est une étude intéressante de prendre le livre de Proverbes, de marquer tous les proverbes qui ont à voir avec la paresse ou la diligence, parce qu'ils ont une application spirituelle, absolument, mes chers amis. Chapitre 6, verset 6 de Proverbes, ça c'est absolument incroyable. Vous le voyez, il est répété deux fois, et voyons ici. Chapitre 6, verset 6. « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. » Il y a quelqu'un pour dire « Levez-vous, c'est l'heure de vous lever. Allez les gars, levez-vous, comme dit la chanson. « Elle prépare en été sa nourriture et l'amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ? Quand te leveras-tu de ton sommeil ? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Voilà, si on ne travaille pas, si on ne plante pas, si on ne s'émance pas, on ne peut pas récolter. Donc, mes amis, c'est très clair. Alors, comment peut-on travailler spirituellement, disons, chaque matin et combiner la prière qui est comme le fait de labourer ce temple, de labourer l'esprit, de labourer le cœur, de labourer l'âme, d'ouvrir des sillons profonds à notre être dans une recherche de la présence de Dieu pour que sa parole, une fois qu'on a préparé le cœur et l'âme et l'esprit avec toutes les forces, elle pénètre profondément et que la racine soit profonde et que le fruit soit abondant pour la gloire de Dieu. Mes chers sœurs et frères, voyons par exemple au chapitre 119 des Psaumes, au verset 2. Reportez-vous au chapitre 119 des Psaumes, au verset 2. Et vous voyez ce que je suis en train d'essayer de vous dire, comme David, ici inspiré par Dieu, il nous donne un exemple merveilleux de cette passion pour avoir les contacts avec Dieu et de cette transformation de notre être pour être un avec Dieu. L'épouse qui se prépare pour être un avec l'époux. Chapitre 119 et verset 2. « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Vous voyez, pensez au Christ quand il s'est levé le matin. Là, ce qu'on vient de lire dans le verset, dans le chapitre 1 de Marc. Comment croyez-vous qu'il cherchait la présence des dieux ? Il dit qu'il le cherche de tout leur cœur. C'est comme ça que, si vous voulez, en priant, on ouvre des sillons dans le cœur pour qu'après, quand on étudie, si on a cette discipline chaque jour, chaque matin, on prépare d'abord le terrain, on prépare notre corps, on prépare l'esprit, on prépare le cœur, on prépare l'âme pour qu'on reçoive après la parole des dieux profondément et que les racines puissent vraiment pénétrer au très fond de notre être pour que ce soit le pouvoir des dieux qui nous conduit jour après jour vers la victoire finale, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité. Donc, le cœur, c'est la première chose que Dieu demande. On va voir comment ici, on va voir cette description merveilleuse de l'âme, du cœur, de l'esprit et des forces avec lesquelles la dédication, la diligence avec laquelle on doit travailler, élaborer cette terre de notre corps. On est de la poussière, mais on est composé, d'après la définition des dieux, dans le plus grand des commandements, on a un esprit dans cette poussière, un esprit, mais on a un cœur et on a les forces pour travailler. Voyons par exemple au chapitre 119, verset 10, il dit « Je te cherche de tout mon cœur ». Voilà ce qu'on doit faire pour préparer le cœur pour que la semence soit plantée au tréfonds de notre être chaque matin, chaque soir, comme le Christ nous a donné un exemple. « Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements ». Donc, c'est une discipline quotidienne qui nous donne le pouvoir de continuer dans les ténèbres du monde avec la lumière qui nous donne la parole de Dieu. Il dit, c'est une lampe à mes pieds, mais il faut alors l'assimiler d'abord pour pouvoir qu'elle soit une partie de nous. Au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur. » La parole est la semence qu'on plante dans l'école, Christ l'a dit, on l'a vu. Dans l'explication de la parabole du semeur, au chapitre 8 de Luc, et qu'est-ce qu'il dit ? Je serre ta parole dans mon cœur. Je ne veux pas que l'ennemi, que le diable la prenne et l'arrache de moi. Je la serre, je la plante profondément en mon cœur. Je laboure mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça doit être tous les matins, toutes les soirées, pour qu'il y ait la croissance. Mes chers sœurs et frères, ça prend de la diligence. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est merveilleux. Donc voyons par exemple ici, au verset 18, ça a à voir avec l'esprit. Si on prie d'abord et on prépare cette terre avec la présence des dieux, quand la parole, quand on lira les Écritures après avoir prié, si les sillons de l'esprit, du cœur et de l'âme sont ouverts en cherchant la présence des dieux, en laborant dans des termes agricoles, donc, ça va pénétrer beaucoup plus profondément en nous. Le fruit sera évident pour la gloire des dieux. Souvenez-vous au chapitre 15 de l'évangile des Jean, quand il parlait de la cèpe et comment les sarments ne peuvent pas porter de fruits s'ils ne sont pas attachés à la cèpe. Donc, par exemple, ici, c'est merveilleux. Par exemple, regardez au verset 18. Psaume 119, on est toujours là, verset 18. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ouvre mes yeux, ça veut dire l'esprit, l'œil de l'esprit. Ouvre mes yeux, ça veut dire j'ouvre des sillons dans mon esprit et se prépare pour voir les merveilles de la loi des dieux qu'on n'arrive pas à pénétrer en toutes ces dimensions. Il y a toujours la parole des dieux vivante, il y a toujours de nouvelles dimensions à découvrir. Ouvre mes yeux, c'est-à-dire laboure en mon esprit pour que je contemple le merveille de ta loi. C'est avec de la passion qu'on peut vraiment porter du fruit, mes amis. Comme ça, avec la tiédeur de notre époque, il va falloir le feu, la tribulation pour nous éveiller si on n'est pas diligent, comme Dieu nous l'exhorte avec sa parole. Au verset 20, c'est un désir passionné. Voici, on a vu les yeux, ça représente l'esprit pour comprendre la parole de Dieu, d'ouvrir l'esprit comme un sillon, comme la charrue spirituelle de la chair, recherche de la présence de Dieu. Ici, mon âme, verset 20, mon âme est brisée par le désir qui toujours les porte vers tes lois. Mon âme est brisée. C'est-à-dire, c'est comme la terre qu'on ouvre, brisée, on brise les morceaux, les mottes de terre. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Voilà, ça c'est faire des sillons, labourer notre être, chers sœurs et frères. C'est merveilleux. Verset 25, on voit encore l'âme. Mon âme est attachée à la poussière. On est la poussière. On vient de le lire. Rends-moi la vie selon ta parole. C'est-à-dire, prépare mon âme pour que ta parole l'illumine et pour qu'elle soit aussi la semence qui va me rendre la vie éternelle. C'est merveilleux. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Voilà, on ouvre des sillons profonds dans l'âme et on cherche la présence de Dieu. Verset 27, fais-moi comprendre, ça c'est pour l'esprit, n'est-ce pas? Comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Voilà, mes amis, c'est l'opération quotidienne de labourer la terre pour qu'on puisse présenter un fruit de croissance à la prochaine fête, mes chers sœurs et frères. Verset 27, mon âme, fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Voilà, la méditation, c'est quand ça commence à pousser des racines profondes. Puis on continue au verset 28, il dit, mon âme, pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Donc l'âme se prépare pour recevoir la parole chaque matin, comme ceux qui s'élèvent de bonne heure pour aller labourer les champs et ouvrir des sillons pour planter la semence. Donc le parallèle, c'est pourquoi j'ai pris tellement de temps à vous expliquer que le plan de Dieu est expliqué dans des paraboles avec un symbolisme profond. Verset 33, enseignez-moi, ça veut dire mon esprit veut apprendre la voix de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin, pour qu'elle pousse des racines profondes en moi. Enseignez-moi. Il faut demander à Dieu. Autrement, notre lecture de la parole de Dieu est superficielle. Il faut qu'elle soit profonde, comme des sillons qu'on ouvre avec la charrue et le zèle. 35, verset 35, mes amis, incline mon cœur à tes préceptes et non vers les gains. Il y a un autre... il y a tellement de merveilles ici. Oh, je cherche un verset que j'aime beaucoup. J'espère le trouver. Et je ne le trouve pas maintenant, mais il y en a beaucoup d'autres. Il dit, je suppliais ta présence de tout mon cœur. Vous pouvez le trouver là quelque part. Je suppliais, chapitre 119 de Psaume. Et il est là. Oui, verset 58. Verset 58, c'est comme ça qu'on doit prier tous les matins. 58, et comme ça, la transformation, comme ça, la croissance sera évidente, sera beaucoup plus rapide. Je t'implore, verset 58, je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi. Et dans ma version ici, dit, j'implore ta présence de tout mon cœur. Je t'implore de tout mon cœur, verset 58, aie pitié de moi selon ta promesse. Donc, on va voir quelques-uns encore. Au verset 64, ce désir de comprendre et que Dieu soit notre enseignant. Comme il dit, ils ont été tous enseignés par Dieu. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté, enseigne-moi tes statuts. La terre est pleine de ta bonté, on a déjà étudié comment la terre rend trois récoltes et représente le plan de Dieu. Donc, on va encore et au verset 81, encore le désir passionné pour la parole de Dieu. 81, mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. Donc, mes amis, je crois que je vous ai démontré avec les parallèles magnifiques que Dieu nous enseigne en sa parole, quelle est notre tâche maintenant. Il ne faut pas être paresseux, il faut être diligent, il ne faut pas aller s'asseoir après la fête à rien faire, il faut être diligent en train de planter cette parole de Dieu dans les tréfonds de notre être, par des sillons profonds dans les cœurs, dans l'âme et dans l'esprit, pour que cette parole pénètre, pour que les racines viennent jusqu'en la profondeur de notre être, et que Dieu soit glorifié pour le fruit qu'on va présenter à la prochaine fête et qu'on n'aura pas les mains vides.